Actu SF, les podcasts.
Donc bonjour et bienvenue à tous à cette table ronde intitulée Roe versus Wade. Pour les gens qui seraient là par inadvertance, s'ils s'en trouvent dans la salle. Donc cette année, la Cour suprême des États-Unis a balayé d'un trait de plume la jurisprudence qui donnait le droit à l'avortement dans le pays. Au-delà de l'opposition quintessentielle de la religion à l'avortement, donc ça c'est l'annonce de la table ronde, il semblerait que d'autres forces politiques soient à l'œuvre, à commencer par le suprématisme blanc. Donc on va parler dans cette table ronde effectivement idéologie, droit à l'avortement, corps des femmes, sacralisation du corps des femmes. Ce qu'on dit la SF, parce que la SF on dit beaucoup de choses en fait. Et pour discuter de tout cela avec moi, donc j'ai Hélène Cucciani, qui est novelliste romancière de science-fiction. Son premier roman d'anticipation, Hexperon, traite notamment du droit à la reproduction et à la maternité et du contrôle des naissances. Donc il parle du droit des femmes à disposer de leur corps. J'ai également avec moi Jean Barré, qui est avocat au barreau de Paris et auteur de la trilogie Trademark, publiée aux éditions du Bélial. Et j'ai enfin avec moi Betty Piccioli, qui est autrice notamment pour la jeunesse, principalement en imaginaire, dont le dernier roman Robustia est sorti aux éditions Scrinéo, et qui est une militante engagée aujourd'hui pour les auteurs, mais autrefois en politique. Voilà. Et avec ces trois personnes, nous allons discuter donc du corps des femmes. Et alors, bon, le corps des femmes, un enjeu finalement politique, un enjeu idéologique, ça date pas d'hier. Enfin.
Non, bien sûr, parce que c'est aussi ancien que la domination masculine, en fait, hein, qui contrôle le corps des femmes, contrôle la maternité. Et en contrôlant la maternité, ben, la reproduction se fait au service du groupe qui domine, donc le groupe des hommes. La religion ensuite a sacralisé cette domination, on peut dire. Elle a mis en place une symbolique très forte. La maternité a été valorisée. La féminité a été diabolisée. Il y a beaucoup d'interdits qui sont nés. Donc si on remonte à l'Antiquité, historiquement parlant, on avait des sociétés grecques et romaines qui étaient totalement démocratiques. Et l'avortement n'était pas interdit, en fait. On considérait que le fœtus était une partie du corps de la femme, donc il devenait une personne seulement quand il venait au monde. Et l'interdiction de l'avortement est vraiment arrivée avec la religion. À l'ère chrétienne, on a considéré que c'était un homicide. Et donc là, c'était terminé, c'était devenu le crime le plus abominable. Mais ça, il a été interdit dès le 1er siècle, en fait, l'avortement. Donc je pense que la religion a un rôle considérable, en fait.
Non, la religion catholique, pour le
catholique, hein, oui, bien sûr, je précise. En général, c'est des religions plutôt monothéistes, on va dire. Et on peut donner peut-être une note tout de suite de SF.
Oui.
Je pense au roman Chromoville, de Joëlle Vintrebert, elle met en scène donc, des villes verticales. C'est dans un futur très lointain, post-apocalyptique. Il y a des castes donc, qui sont réparties verticalement. Il y a une couleur pour chaque caste. Et tout en haut, les femmes sont réduites en esclavage, en fait, parce qu'on a un problème d'infertilité. Et donc, elles doivent accepter toutes les relations sexuelles quand elles ne sont pas en couple. Elles ont droit à trois refus, et après, deux refus, puis après, elles sont mises au pilori. Et donc, tout en haut de cette pyramide de castes, on a des prêtres qui sont en couleur noir et blanc. Donc, le tableau était bien posé.
C'est rigolo parce que cette idée finalement d'infertilité, de l'espèce qui conduit à il faut tous les bébés possibles et imaginables, c'est une idée qu'on va retrouver dans différentes œuvres de SF, donc notamment dans celle-ci, mais aussi dans La Servante écarlate, également dans Les Fils de l'Homme. Mais on n'a pas attendu finalement le moment où il y a un problème de fécondité de l'espèce pour interdire aux femmes d'avorter. Ça n'était pas lié au départ, c'est juste une excuse qui est venue a posteriori, on est d'accord.
On a en SF aussi Battlestar Galactica, hein, avec la présidente Roslin qui, devant la baisse de la population, réenvisage d'invalider Roe versus Wade. Et elle ne réfléchit pas longtemps, hein, alors que c'est une série féministe, censée être féministe.
Betty, tu voulais réagir?
Oui, de manière générale... L'enjeu de la propriété du corps des femmes par les hommes, c'est l'enjeu de la filiation. parce que ben, la filiation passe forcément par le corps des femmes pour les hommes, donc cette propriété leur assure ça et leur assure une descendance et une transmission de leur bah, de leur patrimoine, de leur nom, de plein de choses en fait. Et c'est ça qui a souvent été en jeu au cours de l'histoire et qui, je pense, explique quand même beaucoup de choses dans ce qu'on vit actuellement et dans ce qui a pu être vécu par le passé.
Jean, on va, là je suis en train de voir justement un graphique qui montrait qu'aux États-Unis il y avait quand même un très très gros pourcentage de personnes qui auraient voulu conserver Roe versus Wade et pourtant la Cour suprême l'a retoqué. La justice aux États-Unis elle fonctionne vraiment différemment de la nôtre en fait.
Ah oui, ça elle est tout à fait différente. Alors au niveau procédural évidemment, mais ça on ne va pas rentrer dans le débat maintenant, mais c'est franchement très différent. Et puis sur le fond, il y a cette Cour suprême qui a vraiment une vocation particulièrement importante à gérer les affaires de la société et les grands enjeux juridiques. Et cette Cour suprême est extrêmement politisée. On l'a su sous la présidence Trump, énormément de membres de la Cour suprême ont été changés et se sont donc retrouvés d'une couleur politique républicaine très, très tranchée, très forte. Et c'est en la matière aux États-Unis, évidemment, malheureusement, l'explication de ce revirement de jurisprudence qui ne correspond pas du tout à la volonté du peuple. Mais la Cour suprême est entre les mains d'une minorité politique, puisque les républicains aux États-Unis sont statistiquement minoritaires, ou en tout cas, si on le met sur le nombre d'habitants aux États-Unis, il y a moins de républicains que de démocrates, mais il se trouve qu'ils arrivent à avoir, pour diverses raisons, on ne va pas rentrer dans le débat là, mais ils arrivent à maintenir une domination politique qui se retrouve donc sur le... Dans les résultats, malheureusement, de ce que peut rendre la Cour suprême, il n'y a pas que ce droit-là qui est remis en question, hélas. Il y a une déconstruction attendue ces prochaines années de tout un tas de droits et de garanties qui paraissaient absolument acquis et qui vont être détricotés méthodiquement, mais pour des raisons, en effet, extrêmement politiques. En France, pour l'instant... On est très loin de ce système-là. D'abord, on n'a pas un équivalent de la Cour suprême. Et nos équivalents, entre guillemets, qui seraient la Cour de cassation et le Conseil d'État, sont toujours forcément un peu politisés. Je veux dire, sont des hommes ou des femmes qui composent une juridiction et c'est difficile de rendre le droit en étant absolument neutre. Mais on est très loin, grâce au ciel, pour l'instant, de la situation américaine.
Oui, d'autant plus qu'en fait, ça c'est l'aspect législatif, mais on le sait que l'avortement soit légal ou non, les femmes avortent. C'est finalement la législation de l'avortement leur donne un cadre, lorsque l'avortement est autorisé, leur donne un cadre sécurisé où elles peuvent avorter dans de bonnes conditions. Et ça, excusez-moi, ça fait chuter du coup la mortalité maternelle. Donc l'enjeu là, dans ces cas-là, c'est plutôt la survie des femmes. Finalement, cette loi, elle est un danger pour les femmes.
Oui, mais encore une fois, la filiation et l'enfant est vu comme plus important que la survie de la femme, en fait. C'est ça qu'on voit et qui est mis en jeu et qu'on voit beaucoup d'ailleurs dans, je pense à La Servante écarlate, effectivement, où les femmes sont des esclaves. Et d'ailleurs, on parle de La Servante écarlate comme de science-fiction, mais si on regarde dans l'histoire, c'est des choses qui ont déjà existé. Les esclaves noirs, les femmes esclaves noires étaient malheureusement violées et n'avaient pas de contrôle sur l'enfant qui venait à naître et il était l'enfant devenait la propriété du père qui était souvent le propriétaire de la plantation par exemple. Donc c'est des choses qui ont déjà existé dans l'histoire en fait. La seule chose qui change, c'est qu'elles n'ont jamais été vraiment appliquées aux femmes blanches en fait.
Oui, moi je voulais nuancer peut-être un peu l'idée selon laquelle, quoi qu'il arrive, les femmes avortent. Bon, la plupart du temps elles essayent, mais il y a beaucoup d'endroits quand même où elles n'y arrivent même pas parce qu'il faut avoir les moyens d'aller avorter ailleurs. Et puis, on a vraiment une guerre contre le nombre de cliniques. Aux États-Unis, c'est ça, hein, depuis des années, c'est pas arrivé comme ça d'un coup, Roe versus Wade invalidé. Ils grignotent en fait la possibilité d'avorter en fait, avec des restrictions. En Espagne, il y a des provinces où il n'y a tellement pas d'endroits qu'il n'y a pas d'avortement dans la province. Et je voulais aussi citer une étude en fait, très importante, je trouve, de Turnaway Study, qui a été faite aux États-Unis et qui justement s'intéresse aux femmes qui n'ont pas pu avorter. Parce qu'effectivement, quand on avorte dans des conditions catastrophiques, on prend beaucoup de risques, on peut devenir stérile, on peut mourir. Mais quand on n'avorte pas, c'est très grave aussi. Et c'est pour ça que j'ai trouvé cette étude très intéressante. Je ne sais pas si je peux donner quelques éléments.
Absolument.
Alors, c'est une étude qui a été faite à l'Université de Californie, à San Francisco. Il y avait 1 000 000 de femmes qui venaient de 21 États différents et elles voulaient toutes avorter. Et c'est c'est une étude qui est très sérieuse puisqu'il y a eu 50 d'articles dans des revues spécialisées, revues par des pairs, etc., des revues médicales ou des revues de sciences sociales. Et elle a été menée pendant 8 ans. Les femmes ont été sélectionnées pendant 2 ans et ensuite elles ont eu des interviews régulières pour savoir comment se passait leur vie. Et donc il y avait 2 groupes de femmes, celles qui avaient pu avorter donc dans des bonnes conditions puisqu'elles étaient sélectionnées dans des cliniques et celles qui avaient dû mener leur grossesse à terme. Et donc il est ressorti que celles qui n'avaient pas pu avorter, elles avaient beaucoup plus de problèmes psychologiques. Elles avaient plus de difficultés, d'insécurité économique. Elles avaient plus de chances de rester en contact avec un partenaire violent. Elles avaient plus de chances d'élever un enfant seul. Elles avaient plus de chances de mourir, parce qu'en fait, quand on aborde dans une clinique, on ne meurt pas. Tandis qu'en mettant un enfant au monde, on peut mourir. Elles avaient moins de chances d'avoir un enfant désiré par la suite. Je trouve que c'est un élément très important, un argument qu'on aurait pu donner à la présidente Roselyne, d'ailleurs. Et en fait, l'avenir des enfants lui-même est moins favorable. Ils sont un moins bon développement. Ils sont dans une plus grande pauvreté. Et il y a un engagement limité de la mère auprès de cet enfant qui n'est pas désiré. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le même engagement qu'auprès d'un enfant qu'elle aurait désiré.
C'est des résultats qui semblent extrêmement logiques. Donc, ça me fait penser à... Il y a un tweet qui va passer un moment dans les illustrations, mais à un message qu'avait mis une Américaine qui disait « ça ne concerne pas les enfants, c'est pas... It's not about babies. » Donc, comme c'était dit tout à l'heure, en fait, comme tu le disais, Hélène, c'est aussi une inégalité de classe, finalement, interdire l'avortement. Ce n'est pas une restriction qui s'applique de la même manière à toutes les femmes.
Tout à fait. Il y a des initiatives qui devraient vraiment être faites en France, qui ont été faites en Allemagne, par exemple, depuis les années 2000. Je pense aux boîtes à bébés. Parce que nous, on a l'avortement sous X. Parce qu'en fait, la femme, on l'oblige à avoir cet enfant.
L'accouchement sous X.
On oblige une femme à avoir cet enfant, alors qu'elle ne le veut pas. Et en plus, il faut qu'elle s'en occupe. Ce qui est quand même une double peine, quelque part, on peut le dire. Hein. Et maintenant, accoucher sous X ne garantit plus un anonymat total. Et en Allemagne, ils ont des boîtes à bébés à côté des maternités où on peut déposer un enfant. Et c'est extrêmement profitable parce qu'on trouve moins d'enfants jetés dans les poubelles ou dans les caniveaux. Donc c'est une petite boîte comme un four micro-ondes, on le pose et immédiatement, dans le quart d'heure, on vient le chercher.
Oui, j'avais vu un reportage sur ce phénomène-là. Effectivement, dans les pays où l'avortement est illégal, on se retrouve avec plus d'infanticides, avec plus de problématiques psychologiques. Dans ce cas-là, on a tendance à se dire pourquoi ? Qu'est-ce qui motive ce retour en arrière aux USA ? Est-ce qu'ils sont naïfs ou est-ce qu'ils sont malveillants ?
Ils sont fanatisés par la religion, je crois.
Oui, c'est ça, je pense. C'est encore une fois vraiment mettre la vie au centre, mais de manière sacralisée, en fait, avec tout ce qui est religieux derrière et avec, je pense, beaucoup de désinformation et malheureusement pas assez d'éducation. D'éducation sexuelle, de prévention, d'éducation de biologie, en fait, tout simplement, je pense aussi dans les écoles, malheureusement, parce qu'il y a encore beaucoup de créationnisme, etc., qui influence aussi beaucoup ces croyances et on garde les gens dans l'ignorance, en fait.
Par rapport à Roe versus Wade, donc là, la Cour suprême a retoqué l'arrêté. Pour que l'avortement soit à nouveau protégé aux États-Unis, il va falloir une nouvelle jurisprudence ou il peut y avoir un retour en arrière de cette décision ?
Évidemment, idéalement, il faudrait une nouvelle jurisprudence, mais on peut craindre qu'elle n'arrive pas avant très très longtemps, parce que les juges sont nommés à vie, il ne faut pas l'oublier. Certains, ceux de la Cour suprême, je veux dire, certains sont donc récemment nommés. Ils ne sont pas très jeunes, mais ils ne sont pas non plus antidéluviens, donc ils, a priori, ils ne vont pas décéder dans les quelques années à venir. À moins d'un miracle, au niveau jurisprudentiel, hélas, il faut s'attendre à ce que ça ne bouge pas. Après, on pourrait imaginer, bien sûr, une loi fédérale qui soit plus importante, enfin plus importante, je veux dire, qui puisse sécuriser le droit à l'avortement, mais ça sous-entendrait qu'il y ait un président et un courant politique, en tout cas, donc qui ne serait forcément pas les républicains, donc ça devrait être les démocrates. Ça voudrait dire qu'il faut qu'ils aient aussi la majorité pour le faire, ce qui est loin d'être souvent le cas, et le courage aussi de le faire. C'est comme l'éternel débat de la circulation des armes à feu aux États-Unis. C'est un complet autre débat, mais on retrouve la même problématique, c'est-à-dire la crainte de s'aliéner non pas l'ennemi héréditaire républicain qui, lui, de toute façon, votera toujours républicain, mais le ventre mou des électeurs qui sont susceptibles tantôt de voter républicain, tantôt de voter démocrate, et qui pourraient être choqués, c'est la crainte qu'ont tous les démocrates au fond, qui pourraient être choqués par une décision qui serait vue comme trop libérale au sens américain du terme, c'est-à-dire trop à gauche, et risquer de perdre une partie de l'électorat. Et cette crainte-là politique, doublée des mécaniques institutionnelles compliquées pour les démocrates qui manquent, comme je disais, souvent de la majorité nécessaire pour aller plus loin, fait que je crains fort, je ne veux pas être totalement pessimiste, mais je crains fort que la situation ne s'améliore pas dans les prochaines années.
On a vu qu'il y a des États qui ont réagi en protégeant immédiatement l'avortement dans leur...
Oui, parce qu'il faut bien avoir en tête que la décision de la Cour suprême n'interdit pas l'avortement. Elle permet aux États fédérés de choisir ce qu'ils veulent faire. Alors évidemment, les plus rétrogrades et les plus républicains ont bondi sur l'occasion pour pénaliser de façon très lourde toute tentative d'avortement. Mais en effet, les États plus libéraux ont, eux, au contraire, se sont dépêchés d'encore plus protéger le droit à l'avortement, voire, dans certains cas, de proposer aux femmes des États voisins qui seraient, eux, au contraire, très rétrogrades, de venir possiblement avorter dans les États et éventuellement de protéger ces femmes, parce qu'elles peuvent être en danger quand elles reviennent dans leur État d'origine, puisque la population... Il n'y a pas que la puissance politique, quand même. Il y a la population de ces États-là qui suit ça. Ou en tout cas, même si elle ne suit pas la majorité, les membres actifs de ce genre d'État peuvent être très virulents, très violents. Donc il faut aussi pouvoir éventuellement protéger les femmes, voire leur dire carrément, écoutez, venez vous installer chez nous, vous serez plus en sécurité. Ça nous amène à une fracture de la société américaine sur ce terrain-là comme sur d'autres, mais ce terrain-là est encore plus fort. Ça amène une fracture de la société américaine aggravée. Et on se retrouve dans les États désunis d'Amérique. Et là aussi, la situation ne va pas s'améliorer.
C'est la première cause de terrorisme domestique, hein. Les actions des extrémistes évangélistes et catholiques. C'est-à-dire qu'il y a carrément des bombes dans les plannings familiaux. Il y a des médecins qui ont été assassinés parce qu'ils avaient pratiqué des avortements. Ça rigole pas, hein.
C'est pas mal pour un « tu ne tueras point ».
Voilà, c'est pas mal, effectivement.
On a beaucoup parlé des enjeux religieux. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres enjeux ? Est-ce que la liberté de choix n'a pas d'autres ennemis ? Je pense notamment à un fond de racisme ou une théorie du grand remplacement à l'américaine. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres ennemis de la liberté de choix aux États-Unis ?
C'est sûr que ces groupes extrémistes-là, ils sont historiquement très proches du terrorisme d'extrême droite. Hein. Et probablement, on veut sauver des bébés et sauver des bébés blancs. Mais c'est particulièrement stupide comme raisonnement, puisque si on interdit l'avortement, ce sera les personnes les moins favorisées, donc probablement les Afro-Américaines qui ne pourront plus avorter, donc il y aura plus de bébés noirs. Enfin,
Donc là encore, la lutte des classes se retrouve avec cette problématique-là. Quoi.
Oui.
En France, on avait immédiatement, après le retoquage de Roe versus Wade, des groupes qui s'étaient organisés pour demander l'entrée de l'avortement dans la Constitution, et ça a été refusé. Pourquoi ?
C'est récent, hein ? 19 octobre.
Ce que je peux vous dire, c'est, en tout cas, vous apporter peut-être un éclairage sur les deux questions juridiques qui ont été traitées par la question du droit à l'avortement, les deux questions juridiques qu'il a fallu dépasser ou transformer pour aboutir au droit à l'avortement. La première grande question, c'est ce qu'on peut appeler l'intangibilité du corps. Et ça dépasse la question du droit à l'avortement, mais évidemment, ça l'englobe. C'est la question de savoir si un corps humain est un objet. Alors, c'est forcément une entité matérielle, mais est-ce que c'est un objet dont on dispose à volonté ? Alors, ça pose plein de questions, comme le don d'organes ou pas, ou la vente d'organes ou pas, la possibilité, si vous avez un tatouage sur le dos, de vous arracher la peau et de le vendre. Il y a un film très ancien et très célèbre là-dessus. Ça regroupe dans le cyberpunk la question de savoir si est-ce qu'on pourrait décider de se couper un bras pour mettre un bras bionique à la place. Est-ce que ce qui dans les sociétés cyberpunk est possible ? Donc dans un certain courant de la science-fiction, le corps est un objet comme un autre dont on peut disposer. En France, mais classiquement, je dirais en Europe, voire en Occident, traditionnellement, le corps, à l'inverse de ça, est un concept juridique qui échappe en partie à la volonté de toute personne qui en dispose d'un. Donc, pour arriver au droit à l'avortement, il a fallu déjà amener dans la société, par le législateur, bien sûr, l'idée que, tout de même, il fallait pouvoir disposer de son corps, alors peut-être pas à volonté et pour n'importe quoi, mais qu'il y avait des cas où il fallait que ça puisse être exercé, et évidemment donc le droit à l'avortement. Donc ça a donné lieu à l'époque à beaucoup de débats, et évidemment je vais vous passer tout ça, mais voilà, gardez en tête, il y avait déjà ce premier problème juridique de la conception du corps et de la libre disposition qu'on peut en avoir ou pas. Et l'autre grand sujet qui excite beaucoup plus nos amis américains, c'est la question du sujet de droit. À partir de quand est-ce que on considère que là aussi on va dire une entité, parce que dans la science-fiction c'est pas forcément simplement un être humain en gestation, dispose de droit, soit susceptible d'être représenté devant un tribunal et donc puisse invoquer des droits et ou des obligations, où on peut lui imposer des obligations. On pense évidemment aux réplicants de Blade Runner, mais bon, il y a plein de cas dans la science-fiction où cette question se pose, intelligence artificielle, etc. Alors plus prosaïquement et plus antérieurement que ça, il y a eu cette question évidemment pour la conception. À partir de quand est-ce que l'enfant à naître est un sujet de droit? Si c'est un sujet de droit, évidemment, un des premiers droits reconnus par à peu près tous les pays, en tout cas occidentaux, c'est le droit à la vie. Donc automatiquement, on retombe sur la question de « Ah ben non, je ne peux pas tuer », et c'est d'ailleurs, les Américains aiment bien cette terminologie-là. C'est tuer si c'est un sujet de droit. Et tuer, on n'en a pas le droit. Alors comme tu disais, ça dépend. Et on a souvent dit aux États-Unis, les démocrates n'ont cessé d'attirer l'attention des républicains sur le fait qu'il y avait évidemment un paradoxe complètement fou dans leur conception, puisqu'ils sont hyper favorables à la peine de mort. Donc a priori, tuer des gens, quand même, c'est pas trop leur problème. Alors par contre, si c'est un enfant à naître, alors là, c'est dramatique. Donc bref, il y avait ces questions-là. Donc à partir de quand est-ce que l'embryon, le fœtus, on doit reconnaître le sujet de droit et interdire à ce moment-là l'avortement, puisque ça revient à éliminer un sujet de droit. Donc ces questions-là ont également été très débattues. Et c'est comme ça que chaque société tente de trouver un point d'équilibre qui puisse convenir à ses citoyens dans le débat démocratique quand il peut avoir lieu. Et donc aux États-Unis, on voit qu'il n'a pas tellement lieu, mais bon, voilà, pour trouver la période à partir de laquelle on peut considérer, donc, un, que la femme a le droit de disposer de son corps, fût-il un objet juridique particulier, et deux, à partir de quand est-ce qu'on considère qu'il y a un sujet de droit et que donc on ne peut plus avorter. Voilà, ça, c'est les enjeux juridiques qui ont présidé à tous ces débats.
La question du délai, elle est très importante parce qu'au final, on peut très bien interdire l'avortement sans l'interdire. Il suffit de baisser le délai légal. Il suffit effectivement de fermer des cliniques, de rendre son accès de plus en plus compliqué. Et effectivement, la question du délai légal, c'est quelque chose, il me semble, qui est très facile dans la loi à bouger.
Bien sûr. Et alors, pour répondre, parce que finalement, je me rends compte que je n'ai pas répondu vraiment à la question. Pourquoi c'est pas... voilà, OK. Pourquoi c'est pas... ou en tout cas, pourquoi il y a une résistance à faire intervenir le droit constitutionnel sur la question? Et en plus du droit constitutionnel, on devrait envisager aussi le droit international qui pourrait, parce que ça n'est pas le cas actuellement, prévoir au moins un minimum. Alors, il faut que le droit international, il faut que les États le ratifient la convention internationale, et ensuite, une fois qu'elle soit ratifiée, il faut aussi qu'ils acceptent de l'appliquer. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Mais ça instaurerait le débat et ça permettrait de une protection. Et en droit national, le droit constitutionnel, on peut invoquer tout un tas de raisons. La raison principale, c'est que dans la Constitution, dans le droit constitutionnel, on réserve les droits, alors d'abord, évidemment, traditionnellement, qui sont ceux qui permettent à l'État de fonctionner, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, l'autorité judiciaire, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, comment ça fonctionne, ça c'est évidemment la Constitution. Puis dans la Constitution, dans le bloc de constitutionnalité, comme on le dit entre juristes, on a aussi la question des droits fondamentaux. Quels sont les droits qu'on veut rendre absolument intouchables? Et bon, ben, il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a les grands principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, etc. Et jusqu'alors, la question du droit à l'avortement n'était pas intégrée là-dedans. Donc je pense que ceux qui s'opposent à cette intégration, ça revient à s'opposer à ce que le droit à l'avortement soit reconnu comme un droit fondamental, au même titre que, comme je disais, le droit à la vie, le droit, enfin tout ce qui était la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et donc ça pose la question, est-ce que ça devrait être un droit fondamental? Et dans les débats, la question c'est aussi, si le droit à l'avortement est un droit fondamental, est-ce que c'est la porte ouverte à ce que d'autres droits rentre au sein de la Constitution? Et je crois, d'ailleurs, pour tout dire, peut-être, et d'ailleurs à tort, mais dans la plupart de l'esprit des juristes français, le droit à l'avortement est une telle évidence, j'allais dire, depuis si longtemps, que la plupart des juristes se disent... en France, aux États-Unis, c'est autre chose. En France, c'est pas... Si en danger, interdire l'avortement en France, pour un juriste, ça paraît fou, un peu comme si on disait on a peur de revenir à la peine de mort. Mais je ne dis pas que c'est une bonne, chose. Je crois qu'une des raisons de ce frein vient de là.
Alors, revenir sur la peine de mort, ça n'est pas possible, hein, à cause de la Constitution européenne. Mais je pense, et je ne crois pas me tromper, qu'une très grande majorité d'Américains, 2 semaines avant que ce soit fait, ne pensaient pas qu'on allait leur retirer ce droit.
Mais tu as tout à fait raison. Et je crois qu'on... d'abord que les juristes ont ce travers de... Pas toujours. On dit souvent que le droit est en retard sur une évolution de société, qu'elle soit d'ailleurs positive ou négative, cette évolution. Et c'est pas tout à fait faux, parce que... voilà, on a tendance à considérer que certaines choses, il y a un cliquet anti-retour, comme on dit aussi parfois. On pense que ça ne peut pas être remis en cause. Et c'est faux pour d'autres domaines. Donc, hélas, pourquoi pas pour celui-là. Mais je pense que ça serait peut-être plus simple de d'œuvrer pour que ce soit le droit international ou le droit européen qui, en effet, sécurise ce droit-là, que de passer par le droit constitutionnel, qui me paraît... Oui, et en plus, faire une modification constitutionnelle implique quand même une lourdeur législative. On ne crée pas du droit constitutionnel aussi facilement que du droit classique, et encore heureux, parce que ce qu'une loi peut faire, ne l'oublions pas, une autre loi peut le défaire. Donc si on pouvait très facilement changer la Constitution, bah, ça ne serait plus la Constitution, en tout cas, ça ne serait plus aussi sacralisé. Donc le fait que ce soit très difficile aussi de modifier la Constitution est également un frein, alors que par l'Europe ou le droit international, à mon avis, il y aurait une meilleure facilité.
Une demande qui a été faite à l'Europe.
Oui, tout à fait.
Il y a déjà une demande. Dans les chartes des droits fondamentaux européens.
Et à mon avis, c'est mieux par l'Europe. Enfin, ça sera plus simple.
Et alors, comment l'Europe l'a récupéré ?
C'est à l'étude, hein, je crois. Ça a été accepté,
c'est à l'étude.
Mais c'est un débat essentiellement philosophique, en fait, hein, l'histoire de l'avortement. C'est aussi ça que c'est ce qui le rend très compliqué.
Oui, tout le monde se sent concerné, en fait.
Oui, hein. Voilà, il y a énormément d'intervenants, d'acteurs dans ce débat-là. Et c'est un débat moral de nature philosophique. Il faut savoir ce que c'est qu'une personne, il faut savoir ce que c'est que la conscience, ce que c'est qu'une personne potentielle. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Et d'ailleurs, on le voit dans notre loi à nous. Notre loi est incohérente. Enfin, tu vas me rectifier si je me trompe. Mais on considère donc qu'on n'a pas droit à la vie quand on est un fœtus, puisqu'on n'est pas encore né, on n'a pas de statut juridique. Mais en revanche, si par exemple le père meurt pendant que la mère est enceinte, on considère qu'il est né s'il y va de son intérêt. Donc ce n'est pas le frère ou les parents qui vont hériter. L'héritage va être quand même gardé jusqu'au moment où l'enfant va naître. Et à ce moment-là, il va hériter d'ailleurs à la date où le père est mort. Donc on voit bien qu'il y a des incohérences en fait dans notre loi qui sont dues à ce problème philosophique de qu'est-ce que c'est qu'une personne, qu'est-ce que c'est qu'une personne potentielle.
Oui, et puis du coup à la notion de propriété, parce que là c'est juste dans le cadre de l'héritage, quoi. Donc l'héritage du nom, l'héritage de potentiellement la fortune.
Je ne sais pas si c'est juste dans le cadre de l'héritage, c'est s'il y va de son intérêt, il peut être considéré comme né. C'est ça, hein.
Les petits malins juristes que nous sommes, nous ne parlons pas, nous n'évoquons pas une incohérence, nous parlons de fiction juridique. Voilà, donc c'est une fiction juridique, il y en a d'autres, mais ça permet de... Alors oui, c'est dans une logique plutôt d'ailleurs protectrice.
Ah oui, moi ça me plaît. Hein.
C'est pas dans une logique néfaste, hein, c'est dans une bonne logique. Mais effectivement, il faut passer par une fiction. C'est pas la seule, il y en a plusieurs des fictions juridiques. Et... Bon, je comprends pourquoi on peut voir une incohérence dans la chose, mais il y a une volonté, là c'est une volonté positive. Mais volonté positive un jour, peut-être, ça pourrait être une volonté négative un autre jour. Fictions juridiques sont nécessaires, mais il faut un peu s'en méfier.
Au niveau des réactions qui étaient peut-être difficiles à envisager, ou en tout cas à imaginer avant le retoquage de Roe versus Wade, on a constaté dans les États qui ont immédiatement légiféré sur l'avortement suite à la décision de la Cour suprême, une augmentation des prises de rendez-vous pour les vasectomies.
Bon. Oui, mais enfin... Encore une fois, on parle des femmes depuis le début, mais la contraception et la conception est un problème d'hommes également. Je rappelle que les femmes sont fertiles quelques jours par mois, pendant que les hommes sont fertiles tous les jours de leur vie, quasiment jusqu'au bout de leur vie. Donc à un moment, peut-être qu'on pourrait un petit peu balancer les choses... pour que ce soit un peu plus équitable.
C'est-à-dire que surtout, il faut parler de la contraception masculine. C'est un véritable scandale, hein,
alors,
la contraception masculine. Hein. Quand ça fait des dizaines d'années qu'on l'attend, hein, quand même. Hein.
Quand on voit qu'au moindre effet secondaire, ça ne sort pas, alors que nous, quand on voit les effets secondaires d'une pilule, d'un stérilet, etc., on peut vraiment mourir. Mais c'est pas grave.
Fait. Tout à fait, surtout sur les pilules de dernière génération, en fait, qui augmentent drastiquement les risques d'accidents vasculaires. Oui, c'est avec des interactions extrêmement néfastes. Mais alors, je rigole puisque au niveau de la pilule masculine, les effets secondaires qui ont provoqué le retoquage de cette pilule masculine, c'était la perte de libido, la prise de poids et la déprime. Et j'ai envie de dire, alors, ça me rappelle un truc.
Mais il y a beaucoup aussi un problème de financement, hein. C'est des prétextes un peu,
oui,
parce
qu'il n'y a pas d'argent. En fait, avec ces effets secondaires-là, ouais. Il n'y aura pas de clients pour oui. Voilà. Et après, je me souviens également.
Enfin, c'est pas ce que je voulais dire. Hein. Je voulais dire qu'en fait, il y avait pas d'argent qui est donné à la recherche pour la contraception masculine.
C'est probable.
Il y a une infime partie qui est donnée pour la recherche, le budget qui est consacré à la contraception. Il y a une infime partie pour les hommes et les laboratoires pharmaceutiques ne sont, enfin, l'industrie pharmaceutique n'est pas prête. Ils considèrent que ça va pas être un volume assez important, qu'ils vont pas assez vendre, ou il y a trop d'hommes dans les conseils d'administration qui veulent pas en prendre. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le blocage, il est surtout financier. Donc je pense qu'à la moindre occasion, on arrête, alors qu'il y a tout est prêt. C'est-à-dire qu'on sait que c'est possible, qu'on peut faire de la contraception masculine.
Mais il y a des contraceptions masculines, notamment, qui sont non chimiques, non invasives, extrêmement réversibles. Je pense notamment à la contraception thermique, puisque les testicules sont à l'extérieur du corps, puisque pour fabriquer des spermatozoïdes, ils ont besoin d'être en dessous de 35 degrés, et que dès qu'on remonte les testicules, ce qui est quelque chose qui se produit de façon extrêmement naturelle chez les hommes, si à un moment les testicules sentent qu'ils vont prendre un coup, ils remontent naturellement, de façon très rapide et efficace. Mais une fois à l'intérieur, les testicules cessent de produire des spermatozoïdes, oui. non chimiques, sans effet secondaire. Donc,
oui, mais ce n'est pas encore légalisé, il n'y a pas de vente de slip, il faut se le bricoler ou alors acheter.
Il y en a un sur Internet, mais il faut y aller.
Oui, mais bon, ce n'est pas non plus vraiment testé, et donc il n'y a rien de vraiment légalisé. Il y a eu les piqûres de testostérone, mais c'était très dur parce qu'il fallait le faire pas plus de 18 mois à la suite. Donc on est quand même encore dans le bricolage. Voilà.
Et c'est fort dommage parce que ça marcherait très bien. Après, je me souviens, alors là, c'est pour ouvrir au niveau de la question de les hommes s'emparant de la contraception. J'en avais discuté avec ma mère, ma génitrice, qui m'avait dit « Je n'aurais jamais fait confiance à un homme pour gérer cette question-là. » Donc, il y a peut-être aussi une question de confiance.
Peut-être. Dans mon roman Expéron, c'est les hommes qui prennent un stérilisant. Hein, et donc, les femmes sont réduites à leur demander... parce qu'en fait, on peut pas se reproduire librement puisqu'il faut avoir un diplôme pour être parent. C'est une situation, en fait, on s'est encore retourné contre les femmes parce qu'elles ont voulu faire reconnaître que c'était un vrai travail d'avoir des enfants et de s'en occuper. Et donc, finalement, on a fait un diplôme et après, elles étaient coincées si elles n'avaient pas le diplôme. Voilà. Mais ce sont les hommes qui prennent un stérilisant.
Il y a une question de confiance, mais il y a surtout une question de responsabilité. Pourquoi les hommes ne se sentent pas responsables de la contraception? Parce qu'ils savent que si leur partenaire tombe enceinte, ils peuvent très bien ne pas être responsables de l'enfant qui arrive, et personne ne leur dira jamais rien. Et c'est pas grave, et c'est totalement admis dans la société que les hommes peuvent ne pas s'occuper de leurs enfants, ne pas les reconnaître, ne pas en avoir. Enfin, c'est... Encore une des jolies choses que le patriarcat nous apporte.
On peut parler un petit peu science-fiction avec l'ectogénèse, peut-être. Parce que justement, là, si on fait de l'ectogénèse, donc l'ectogénèse, c'est l'utérus artificiel. Si on met les enfants dans un utérus artificiel, le père et la mère vont avoir le même droit pour l'avortement. Il faudra avoir un IVG par consentement mutuel. Et donc, tout sera bouleversé. Et le droit au fœtus aussi pourra être bouleversé. Puisqu'on pourra demander à une femme de faire adopter son fœtus plutôt que le tuer. Et il pourrait du coup avoir un droit, le fœtus. Donc ça pourrait devenir très compliqué.
Oui, on en parlait l'autre jour sur une table scientifique, mais effectivement, le droit est obligé de légiférer a posteriori des découvertes scientifiques et a posteriori des avancées de celles-ci. Il n'y a pas moyen de faire autrement.
C'est ce que je disais tout à l'heure. On a souvent le reproche formulé aux juristes et aux législateurs en particulier d'arriver après parfois la bataille d'une évolution sociale ou technologique. Alors aujourd'hui, je trouve qu'il y a une tendance à essayer... C'est pas formidable, mais quand même, il y a une tendance, le législateur, à essayer de prévoir à l'avance quelles seraient les évolutions à venir et comment s'y préparer. Mais il est vrai aussi que certaines évolutions technologiques, même si on peut les prévoir et les comprendre en tant que science, on a du mal à appréhender quelles seront les conséquences sociales de cette révolution. Et le droit ayant avant tout vocation à gérer le social, même s'il peut bien sûr interdire une science ou une découverte qui lui paraîtrait monstrueuses. Par exemple, le clonage est évidemment interdit, alors qu'on ne sait pas encore ce que donnerait une société de clones. Peut-être il y aurait des effets évidemment négatifs, peut-être positifs. Il y aurait tout un droit à inventer, mais on a dit stop avant. Sur d'autres évolutions technologiques, comme par exemple celle dont tu parlais.
Oui, qui pourrait être une alternative à l'avortement.
Mais ça, on ne sait pas. Enfin, ou en tout cas, le législateur manque peut-être d'imagination pour évaluer quel serait l'impact sociologique de ça. Et donc, par exemple, la question de savoir quels seraient les droits et les obligations d'une personne née dans ces conditions. Est-ce qu'il faut qu'il y ait des droits et des obligations différents d'ailleurs ? Et si oui, lesquels ? Comment la société réceptionnerait cette catégorie de citoyens élaborée de cette façon, ça,
et difficile à imaginer. Et la remise en question de l'IVG normale.
Et la remise en question.
Parce que du coup, si on veut une IVG normale, parce qu'on a violé donc une IVG où il y aura la mort de l'embryon ou du fœtus, à ce moment-là, si on refuse d'utiliser l'ectogénèse, on peut être accusé de crime. Donc ça devient très compliqué. Ça devient très...
On va essayer de répondre, avant de passer la parole au public, de répondre à la question de cette table ronde, de savoir quelles seraient les bases sociétales à mettre en place pour protéger les droits des femmes dans l'avenir. Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent en tête, là, où il faudrait déjà combattre tel aspect ou tel autre ?
Il y a des choses super simples. Hein. Arrêtez de proposer le stérilec aux femmes qui ont eu des enfants, déjà.
Par exemple,
c'est quand même le meilleur moyen de contraception. Et il n'est pas utilisé, il n'est pas assez utilisé. Ça, c'est vraiment un scandale, cette histoire, hein. Il n'y a aucune raison médicale de ne pas proposer le stérilet.
On est au stérilet chez les nullipares, donc les femmes qui n'ont encore jamais eu d'enfants, on est au stérilet hormonal, mais avec tous les effets secondaires des hormones qu'on connaît.
Mm. Ouais, c'est mon cas. S'il fallait que je le refasse, je ne sais pas si les 8 kilos pris en un mois et les 6 mois de douleurs atroces... À chaque cycle, je le referai.
Mais c'est peut-être pas le cas pour toutes les femmes.
Non, bien sûr, mais je sais pas si le stérilet est vraiment une solution.
Pour moi,
la contraception devrait être améliorée dans le sens où les effets secondaires actuels d'énormément de moyens de contraception devraient être une priorité de la recherche aujourd'hui médicale pour moi.
Le problème de la contraception, c'est en fait l'écart qu'il y a entre l'efficacité en théorie et l'efficacité dans la pratique. Parce qu'a priori, la pilule, il y a des pilules très bien tolérées qui sont très efficaces dans l'absolu. Le problème, c'est qu'on les oublie. Donc, on a 27 fois plus enceinte, je crois, quand on prend la pilule, par rapport à la... on devrait être enceinte juste une fois, si c'était théoriquement les vrais résultats.
Il y a un problème médical également, voilà. Puisque quand une femme va venir déplorer les effets secondaires dont elle souffre, on va souvent minimiser, il y a un problème de maltraitance médicale sur le sujet, où les effets secondaires de la pilule, écoutez madame, ça va pas vous tuer, quoi. Mais comme disait Betty, effectivement, les conséquences psychologiques et physiologiques de la contraception sur la femme, non, ce n'est pas anodin, puisque c'est ce qui empêche notamment la volonté des hommes de prendre ces mêmes médicaments, ce même contraceptif, parce que les effets secondaires les ennuieraient eux.
Donc il faut développer la contraception masculine, hein, comme on disait tout à l'heure.
Oui, et puis peut-être effectivement que le patriarcat est...
Voilà, j'allais dire, moi pour moi la seule solution c'est abattre le patriarcat. La vraie seule solution, c'est ça. Mais à côté de ça, il y a aussi, je pense, beaucoup de prévention, éducation sexuelle, éducation au fonctionnement biologique de nos corps, éducation à plein de choses... enlever certains tabous dans notre société autour du corps de la femme et de parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sales, enfin les règles c'est sale, pourquoi c'est des questions qu'on peut se poser et je pense que si on dédramatisait beaucoup de choses et si on expliquait mieux et qu'on avait des vrais cours d'éducation sexuelle et de prévention et un accès gratuit aussi à la contraception, à tous les types de contraception, les choses iraient quand même, je pense, beaucoup mieux.
Mais pour le coup, nous avons des militants en France également, puisque à chaque fois que l'éducation nationale a tenté de faire rentrer ce genre de choses dans les programmes, il y a eu des polémiques, systématiquement, et là encore par une minorité.
Moi, je voudrais aussi parler encore de la religion. Vous avez pensé que je fais une fixette. En fait, je pense que ça serait important de décrédibiliser la parole des extrémistes religieux. Et je voudrais j'invite tout le monde à regarder un documentaire qui est sorti en 2019 qui s'appelle « Religieuses abusées, l'autre scandale de l'Église ». Et on apprend que l'Église, qui donc considère que l'avortement est le crime le plus abominable, qui est donc puni d'excommunication, a pratiqué largement l'avortement sur des sœurs violées par les prêtres et sur tous les continents. On a des exemples d'une jeune sœur de Nazareth qui vient prendre des cours au Vatican et qui est violée par un prêtre de sa congrégation. Elle est renvoyée. Elle trouve refuge quelque part, on lui envoie un message, il faut donner l'enfant à l'adoption, il faut le donner à Dieu qui le fera adopter. Elle obéit parce qu'elle est croyante. Ensuite, on la vire de la congrégation. Et c'est un avocat qui lui permet de récupérer son enfant pour pas qu'elle ait tout perdu. Il y a des exemples dans ce reportage de femmes africaines enceintes de 8 mois, une femme qui a été violée par un prêtre, en fait. Et ils euthanasient son enfant dans son ventre, donc à 32 semaines, avec la complicité de médecins complices de l'Église. Et les prêtres violent ces femmes-là parce qu'elles n'ont pas le sida, parce que c'est des sœurs. Et donc, c'est un scandale quand même absolument terrible, dont personne ne parle, et qui décrédibilise totalement leurs paroles, je trouve.
Oui, il y a eu des horreurs faites également à La Réunion par l'État français avant 1975. Hein. Où il y avait des avortements non consentis par les femmes qui les subissaient, des stérilisations non consenties. Oui, il y a eu. Mais là on touche davantage au pouvoir du patriarcat, encore une fois, des gens de pouvoir sur le corps des femmes.
Ben là, voilà. C'est une structure patriarcale, hein, l'Église oui. catholique.
Donc il nous reste 10 minutes, alors je vais passer la parole au public, parce que voilà, je pense qu'il y a plein de questions. Alors allons-y.
Bonjour. Alors, moi, je voulais intervenir par rapport à mon histoire. J'ai avorté en 2020 au Brésil. C'était donc très difficile déjà d'avoir des pilules abortives, puisqu'il faut savoir qu'au Brésil, les pilules arrivent en majorité depuis les États-Unis et d'Espagne. Et en fait, aujourd'hui, je pense profondément aux femmes brésiliennes qui essaient d'avorter, parce que les États-Unis sont dans la situation qu'on connaît. Et moi, je voulais parler surtout de la France parce que ce qui m'intéresse, c'est l'aspect des couleurs de peau et de comment on peut faire pour que l'avortement soit plus accessible à tout le monde. Et je voulais savoir s'il y avait des études qui existaient, si vous savez s'il y a des études qui existent sur le fait de rendre moins compliqué l'avortement pour des gens de couleurs différentes, de savoir si elles sont traitées de la même manière. Parce que moi, ce qu'on m'a dit quand j'ai avorté, j'ai rencontré la personne qui m'a donné les pilules abortives. On s'est rencontrés dans un bar. Elle me les a données sous une table et c'était caché. Et ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle, elle était racisée. Elle m'a dit, t'as de la chance, t'es blanche. On va pas te traiter de la même manière quand tu vas arriver à l'hôpital. Moi, on m'a traité mal. On m'a vraiment fait comprendre que ce que je faisais, c'était mal. Elle a failli mourir d'hémorragie. Et voilà, moi, je voulais savoir ce que vous avez à dire sur ça. Si on peut protéger aussi les femmes racisées et si on les protège de la même manière en France, en fait.
Je vois pas qui parle, en fait, moi. Ah, tout au fond, d'accord. Non, vraiment désolée pour ce qui vous est arrivé. Moi, je n'ai pas du tout d'informations là-dessus, mais il est certain que dans le monde, les endroits les plus défavorables pour le droit à l'avortement, c'est l'Afrique et l'Amérique du Sud. Je pense, hein, on peut dire, au niveau de la loi.
Non, moi, pareil, c'est vrai que c'est une question très compliquée, mais c'est vrai qu'il est prouvé que, notamment en France, malheureusement, j'ai perdu le terme, mais les femmes racisées, la douleur, les symptômes des femmes racisées sont beaucoup moins pris en considération par, notamment par le personnel médical de manière générale, ce qui conduit à des situations complexes, voire mortelles pour certaines. Et c'est vraiment une question sur laquelle on va devoir, je pense, se pencher en tant que société, de à quel point. De base, la douleur des femmes est moins prise en compte que la douleur des hommes, mais la douleur des femmes racisées est encore moins prise en compte que la douleur des femmes blanches. Donc oui, c'est un très gros point, pas que dans notre société française, mais malheureusement dans, je pense, toutes les sociétés. Et c'est, enfin, l'autre face du patriarcat, c'est le colonialisme. Et on est en plein dedans, quoi, malheureusement.
Oui, c'est-à-dire qu'encore une fois, il est davantage question de pouvoir que de médecine. Et donc, plus un groupe est opprimé, plus il est opprimé. Donc, il y a effectivement encore des différences de traitement en fonction du groupe auquel on appartient, hélas.
Bonjour. On en parlait ce matin et du coup, je trouvais ça intéressant de réaborder ça ici et peut-être avec les autres intervenants. Donc on en parlait avec Betty. On voit apparaître de plus en plus sur Instagram et aussi ailleurs des comptes dits féministes qui traitent du féminin sacré. Est-ce que on pourrait aussi aborder la question de pourquoi ça peut être extrêmement problématique?
Alors, la problématique autour de ça, c'est l'essentialisation de la femme, du corps féminin. On parle, il me semble, de feu sacré dans le ventre sexe. Donc, le sexe féminin est relié directement au ventre, donc à la reproduction. Voilà, il y a une essentialisation autour des qualités et des traits qui seraient soi-disant féminins. Et puis, on sait que même s'il y a dans ces mouvements une volonté de reprendre le contrôle sur son corps, sur son esprit, etc., il y a des dérives malheureusement vers des milieux de pseudo-sciences, pseudo-médecine, etc., qui sont malheureusement assez dangereux. Et pour rebondir sur l'essentialisation, moi c'est pour ça que j'en avais parlé quand on avait préparé la table ronde. Pour moi, l'autre souci d'essentialisation du corps de la femme, c'est ce qu'on appelle actuellement les TERF, donc les trans-exclusives radicales féministes. Donc c'est des féministes, soi-disant féministes radicales, qui excluent les femmes trans de leur lutte parce qu'elles n'ont pas d'utérus. Donc ça veut dire que la femme ne serait qu'une femme parce qu'elle a des appareils reproducteurs. Donc encore une fois, pour moi, quand on voit qui récupère aujourd'hui la parole des TERF, c'est l'extrême droite, c'est le Rassemblement National et c'est des personnes qui sont opposées à l'avortement et qui sont opposées à ce que les femmes soient des citoyens de premier ordre. Donc pour moi, voilà, il y a ce problème de l'essentialisation des femmes et des hommes aussi, hein, de toute façon, fait beaucoup de mal et fera du mal s'il devient trop central dans la société, parce qu'on va toujours revenir à l'appareil génital, en fait, tout simplement.
Je pense que c'est toutes les idéologies, qu'elles soient philosophiques, politiques, sociétales, toutes les idéologies religieuses également, sont l'ennemi des droits des femmes, en l'occurrence, finalement. Enfin, c'est ce qu'on peut en conclure.
Peut-être pas l'anarchie, quand même.
Certes, non.
Bonsoir. Merci déjà beaucoup pour cette conférence. Moi, je sais pas, j'ai un truc que je ressens, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de c'est comme si il y avait pas d'empathie en fait sur ce que pouvait ressentir l'être humain qui n'a pas choisi d'avoir un utérus, des ovaires, etc., et qui se retrouve dans une situation de qu'est-ce que je fais au moment où j'ai un être vivant dans le corps, quoi. Et quel est le choix à faire? Et du coup, il y a personne. Enfin, je veux dire, personne peut se mettre à la place de la personne qui est en train de vivre le truc et le fait de. En fait, de placer ça sur des théories, c'est des discours, c'est des trucs que des personnes qui ont le pouvoir et qui n'ont même pas la possibilité de le vivre dans leur corps, fait qu'il y a une sorte de, je sais pas, de, 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 de bon, on ressent en fait que la personne ne peut pas se met pas à la place de l'autre et n'y a pas d'écoute ni de dialogue entre les personnes qui vivent ces difficultés de faire un choix radical et celles qui ou ceux qui plutôt ne vivront jamais ça quoi. Alors est-ce que c'est pas de la frustration de jamais porter un enfant? Est-ce que derrière il y a pas un truc qui est hyper inconscient et dont le sens n'est pas abordé? Enfin je sais pas. En tout cas il y a beaucoup de douleur et de souffrance quoi. Hein, tout ça, et de la peur et un manque de confiance, un moment on en a parlé, il n'y a pas de confiance quoi, sur ce que les femmes pourraient dire, non, je ne peux pas porter l'enfant, je ne pourrais pas l'éduquer plus tard, je ne suis pas assez forte. Il n'y a pas vraiment de solution. Quoi.
C'est vrai qu'on n'écoute pas la femme et on considère d'emblée qu'avorter est une tragédie, ce n'est pas du tout forcément une tragédie. Simone Veil l'a dit dans son discours. Bon, j'imagine qu'elle parlait des cas effectivement les plus désespérés, mais c'est pas forcément une tragédie. Les femmes ont le droit de le dire, qu'elles le vivent pas comme une tragédie. Elles ont le droit d'avoir comme priorité pas le fait que cet enfant ait une âme. De toute façon, il n'y a aucune religion qui est d'accord sur le moment où il y a une âme, mais de s'inquiéter plutôt sur la souffrance du fœtus. Ça, par exemple, au niveau de la science, ça, c'est un élément qui est très important. Parce qu'on disait que jusqu'à présent, le fœtus ne souffrait pas jusqu'à la 24e semaine. Et là, on revient là-dessus. Il y a un professeur d'université de Singapour qui dit qu'il a trouvé que finalement, ça ne dépendait pas du développement du cortex cérébral, qu'on pouvait avoir de la douleur autrement. Ça, pour une femme qui veut avorter, c'est très important. Est-ce qu'il faut anesthésier le fœtus? Donc tout ça, c'est des questions dont on parle moins.
Après, il y a une possibilité d'oppression sur un groupe de la population donnée. Et donc, on sait bien qui, mais si on a envie de faire usage de cette possibilité d'oppression, on ne va pas être dans l'écoute. L'écoute va être un ennemi de l'oppression. Donc, effectivement, c'est ce silence assourdissant, comme on appelle ça, c'est quelque chose qui finalement sert les groupes qui veulent utiliser ce pouvoir de domination.
Ils sont jaloux du pouvoir d'enfanter. Peut-être que les religieux extrémistes sont jaloux de ce pouvoir qui a des allures de pouvoir divin.
En sachant que dès qu'on arrive à diviniser le corps des femmes, c'est ce que disait Betty, il y a autant de dangers que le féminin sacré est aussi dangereux que la religion orthodoxe qui, pour l'instant, opprime le corps des femmes. Je crois que c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir suivi cette table ronde. Bon festival.